Chapitre 7. Timothée Fram et Georges, aussi surpris l'un que l'autre, demeuraient silencieux, les poings serrés, les regards animés par la colère. Ce mutisme rempli d'hostilité menaçait de se prolonger entre les deux hommes, lorsqu'accoururent Germaine, M. Dubreuil et ses amis, escortés des services du palais des concours, porteurs de grandes lanternes en papier. À la vue de Germaine, le mécontentement de l'anglo-saxon parut se dissiper comme par enchantement. Il salua tout autour de lui un gentleman consommé, tendit la main à Georges Formentier, son confrère en journalisme, et ce fut avec autant d'aisance que s'il se fût trouvé dans un salon qu'il dit « Oh, mademoiselle, messieurs, j'espère que vous excuserez mon intrusion tout à fait inattendue dans le palais où vous étiez installés. » « Monsieur, répliqua poliment l'ingénieur Dubreuil, ce palais est assez vaste pour nous donner asile à tous. Nous sommes au contraire charmés d'avoir fait la rencontre d'un Européen dans ces contrées lointaines. » Et Timothée Fram repartit avec une affectation de courtoisie à laquelle Germaine fut sensible. « Oh bien que mes compatriotes se soient fait une réputation d'égoïsme bien souvent méritée, je tiens à vous montrer qu'il y a bien des fois des exemples à la règle. Si ma présence ici offre le moindre inconvénient, je vais immédiatement me retirer avec mes porteurs. »« Oh, nullement, vous n'en ferez rien !» s'écrièrent à la fois tous les Français. « Vous êtes vraiment d'une amabilité qui me rend confus. Vous savez pourtant que dans le voyage d'exploration circumterrestre que j'ai entrepris, je dois m'attendre à des inconvénients plus sérieux qu'une nuit passée en plein air sous ce beau ciel. « Alors, n'insistez pas, » dit Georges Formentier, gagné à son tour par la franchise apparente de Timothée Fram. « Vous dînerez avec nous, c'est une affaire entendue. » Le plaisir d'entendre un voyageur aussi célèbre que vous, ajouta Germaine, sera pour nous une véritable bonne fortune. Désormais, la glace était rompue. Georges Fromentier offrit son bras à Germaine et tout le monde se dirigea vers la salle à manger que décoraient de belles bannières de soie rouge ornées de sentences et de proverbes tirés des philosophes chinois. Voici quelques-uns de ces proverbes que la Rochefoucauld ou la Bruyère n'eussent certainement pas désavoués. Le cérémonial et la fumée de l'amitié. Les beaux chemins ne vont pas loin. Accueillez vos pensées comme des hôtes et traitez vos désirs comme des enfants. On n'a jamais tant besoin de son esprit que lorsqu'on a affaire à un sot. Il faut faire vite ce qui ne presse pas pour faire lentement ce qui presse. Le sage ne dit pas ce qu'il fait, mais il ne fait rien qui ne puisse être dit. Tout le monde s'amusa des proverbes chinois, et grâce aux périls et aux fatigues de cette journée, chacun fit largement honneur au repas moitié européen, moitié chinois, qu'avaient préparé les mandarins de la marmite. Au dessert, Jean Cascaret, qui jusque-là avait regardé Timothée Fram de son air le plus renfrogné, s'était déjà presque réconcilié avec lui. Il le trouvait beaucoup moins antipathique. « Mais enfin, monsieur, lui demanda-t-il, ce qui m'étonne dans tout ceci, c'est la façon merveilleuse dont vous vous êtes trouvé juste à point, non seulement pour nous rencontrer, mais encore pour venir loger au même endroit que vous. Avouez qu'il y a là de singulières coïncidences. « Monsieur Jean, dit Germaine, il me semble que voilà des questions légèrement indiscrètes. » « Nullement, répondit Timothée Fram avec tranquillité. Notre rencontre ici est toute naturelle. Je regrette même de n'avoir pas connu votre voyage. Nous aurions pu partir ensemble de Canton. Bien, nous nous dirigeons comme vous vers l'Himalaya, dit l'ingénieur. Mais je suis la même route que vous, mais vous êtes venu par eau et je suis venu par terre. » Mais comme nous avons remonté tous deux la vallée du Sikyang, il n'y a rien de surprenant à ce que nous nous soyons rencontrés. En arrivant ici, j'ai été immédiatement trouver le préfet et lui montrer mes lettres de recommandation. Il m'a fort bien reçu et m'a désigné ce palais comme logement en m'assurant que j'y trouverais des compatriotes. Ah, « Nous ne sommes pas précisément compatriotes, » interrompit Jean. « Ben, vous êtes européen, cela suffit. Si loin de la France et de l'Angleterre, Français et Anglais doivent se regarder comme compatriotes. Le repas s'acheva avec beaucoup de gaieté, d'entrain, et il était près de 11 heures au chronomètre de l'ingénieur Dubreuil, lorsque chacun regagna la chambre qui lui était assignée. Les porteurs chinois de Timothée Fram avaient trouvé asile dans les vastes salles du rez-de-chaussée, près des tirailleurs annamites de l'expédition française. L'ingénieur Dubreuil, qui était allé souhaiter le bonsoir à Germaine, lui fit remarquer dans un coin de la chambre un gros siège de cire muni à intervalles égaux de divisions et de caractères tracés au pinceau. « Sais-tu ce que c'est que cela ? » demanda-t-il à sa fille. « Non. « Eh bien, ma chère enfant, c'est une horloge à la mode chinoise. Chacune de ces divisions représente 1 heure. On peut allumer le cierge avant de s'endormir. L'on a en s'éveillant qu'à regarder jusqu'à quel point il est consumé pour savoir combien de temps l'on a dormi. Avoue que c'est très ingénieux. Oui, mais un peu dispendieux. » Monsieur Dubreuil prit congé de sa fille et se retira. Tout le monde, cette nuit-là, dormit d'un admirable sommeil dans les salles fraîches, bien aérées et munies de moustiquaires du palais des concours. Le lendemain, de bonne heure, le premier soin de Monsieur Dubreuil et de ses amis fut d'aller rendre visite au mandarin préfet. Ils s'y rendirent accompagnés de Timothée Fram. Sur leur route, la foule des badauds chinois s'attroupait, regardant défiler les diables occidentaux, avec une curiosité où il entrait une certaine dose de malveillance. Mais la fière prestance des voyageurs en imposait aux plus hostiles. D'ailleurs, on savait déjà qu'ils étaient sous la protection des autorités. Le mandarin, qui se nommait Qi-Hang-Liehu, accueillit ses visiteurs avec la même politesse un peu froide que la veille. Il paraissait désirer vivement que les étrangers quittassent le plus promptement possible la ville qu'il était chargé d'administrer. « Les rebelles, déclara-t-il, sont solidement installés sur le fleuve et sur toutes ses rives. Vous êtes ici sur les limites de la province du Guangxi. Je vous conseille de passer au plus tôt dans la province du Yunnan. Le parti le plus pratique à prendre pour vous, si vous voulez éviter les pirates boxeurs, et de vous défaire de vos jonques, pour lesquels je vous indiquerai des acheteurs à un prix raisonnable, et de continuer votre route par terre. Quand vous serez arrivé dans la patrie du Yunnam, qui confine à la terre des herbes, au Tibet, vous n'aurez plus rien à craindre des révoltés. » Monsieur Dubreuil remercia le mandarin de son hospitalité et de ses conseils, et lui assura qu'il partirait le lendemain. Le fonctionnaire chinois, que la présence des Européens semblait ennuyer beaucoup, parut enchanté de cette décision et il prit congé de ses hôtes avec une visible satisfaction. Monsieur Dubreuil et ses amis étaient déjà sortis lorsque Timothée Fram les rejoignit. Il était resté en arrière à s'entretenir en particulier avec le mandarin, avec qui il paraissait en excellents termes. Messieurs, dit l'anglo-saxon, le pays est infesté de rebelles. Permettez-moi, dans l'intérêt de tous, de vous faire une proposition. Nous vous écoutons, dit l'ingénieur. Puisque nous nous dirigeons vers tous vers le Tibet et qu'un heureux hasard nous a rassemblés, pourquoi ne ferions-nous pas route ensemble? Réunis, nous serons plus forts pour nous défendre contre les dangers qui nous entourent. Lorsque vous aurez atteint le but de votre voyage, que d'ailleurs j'ignore, nous nous séparerons et je continuerai ma route pour accomplir le parcours que j'ai annoncé. Personne ne trouva à redire cette proposition, pas même Germaine, car avec un tact parfait, l'anglais saxon évita de faire la moindre allusion à la demande en mariage qu'il avait naguère adressée à la jeune fille. Tout le monde, y compris Georges Fromentier, commençait à revenir de ses préventions antérieures contre le reporter. Seul Jean Cascaret était furieux. Beaucoup moins bien disposé que la veille envers l'anglo-saxon, Il se dépitait en lui-même de la facilité avec laquelle ses amis venaient de l'accepter comme compagnon de route. Il avait besoin de toute son énergie pour dissimuler ses véritables sentiments. Mais c'est de la dernière imprudence, murmurait-il. Cet Anglais nous jouera quelque tour de sa façon. Jean trouva un confident très disposé à partager ses craintes en la personne de l'honnête Onésime Rougeau, qui dès le début avait pris en grippe l'Écossais et John Murdoch, le domestique de Timothée Flam. Ah, vous avez raison, monsieur Jean, dit Onésime. Je suis comme vous. Oh, je trouve que ces deux Anglais n'ont pas les figures d'hommes et de gens. Il est bien surprenant qu'ils nous aient rencontrés si à propos. Oui, je parierais qu'ils ont machiné contre nous quelque trahison. Non, nous n'y pouvons rien faire, monsieur Jean. C'est bon, je vais prévenir Jannick, la femme de chambre de mademoiselle, pour qu'elle avertisse sa maîtresse de se tenir sur ses gardes et qu'elle fasse part de ses soupçons à monsieur Dubreuil. Dûment catéchisée par Onésime, la jeune fille Jannick dit à sa maîtresse combien Timothée Flam lui semblait suspect. Mais Germaine était bien loin de partager les idées de sa camériste. « Tu es folle, ma fille. Monsieur Jean et Onésime sont aussi fous que toi. Sais-tu que Monsieur Flam est un journaliste et un explorateur célèbre ? Il est, comme tous les gens de sa nation, un peu excentrique, un peu bizarre, mais je le crois très franc et très loyal. Il a tort de me faire la cour, et c'est tant pis pour lui, car il en sera pour ses frais, mais c'est pas une raison pour avoir des soupçons contre lui. » Jannick ne répondit rien, mais elle se retira en grommelant. Elle trouvait à part soi Mademoiselle Dubreuil beaucoup trop indulgente envers l'anglo-saxon. Tout le reste de la journée fut employé aux démarches nécessitées par le changement de mode de locomotion. Grâce à la recommandation du mandarin préfet, M. Dubreuil vendit ses deux jonques à un négociant de la ville, aussi cher que lui avait coûté. Il licencia le capitaine poltron Wang Xian avec une indemnité raisonnable et ne retint de l'équipage des deux jonques que le cuisinier. Tout le monde avait été très satisfait des services rendus par ce mandarin de la marmite. Les marchandises qui se trouvaient à bord furent toutes transportées au palais des concours. Puis l'ingénieur fit emplette de 4 palanquins solides et confortables, de 6 de ces petits chevaux tartares si vifs et si résistants de la fatigue. Il s'agissait maintenant de trouver une 50aine de porteurs pour remplacer ceux qui avaient pris la fuite lors du combat entre les pirates Bruxelles. Timothée Flam avait offert à M. Dubreuil de se charger de cette démarche. Mais sur les instances de Jean Cascaret, et bien plus pour lui être agréable parce qu'il avait quelques soupçons contre le reporter, il résolut de s'en rapporter qu'à lui-même. Se souvenant des recommandations de Pat Nunkey dans sa lettre et des conseils que lui avait donné le bonze de la pagode de Canton, l'ingénieur se rendit à un grand couvent qui se trouvait aux environs de la ville, demanda le supérieur et lui raconta qu'il se rendait aux environs de Lhasa, visiter son ami le lama Pat Nunkey, et le pria de lui procurer des porteurs sur la fidélité desquels il put compter. Le supérieur, oh, un homme encore jeune, qui portait avec élégance une grande robe de soie gris cendrée, eut un fin sourire en écoutant l'ingénieur. Seigneur, lui dit-il, j'ai été longtemps prévenu de ton arrivée. Je sais quelle fâcheuse circonstance retarde ton voyage. J'ai ordonné d'y pourvoir, et si tu n'étais pas venu, j'allais moi-même aller te rendre visite. Regarde, tes porteurs sont là. Le prêtre bouddhiste avait ouvert une porte qui donnait sur une cour intérieure. Monsieur Dubreuil aperçut une 60aine de robustes coolies qui, assis sur leurs jambes repliées à la mode orientale, semblaient attendre qu'on leur donnât des ordres. L'ingénieur était émerveillé. La conviction qu'il avait de se trouver sous la puissante protection du lama Pat Nunkey lui donnait un courage et une confiance dans l'avenir extraordinaire. Il remercia avec effusion le supérieur du monastère et le força d'accepter une dizaine de taëls. « Tous ces coolies, lui dit le supérieur, ne parlent que le chinois et le tibétain. Un seul d'entre eux seulement comprend un peu d'anglais et de français. Il se nomme Sakun. Il faudra le considérer en quelque sorte comme le chef des porteurs et ne jamais le charger de fardeau. Vous pouvez avoir toute confiance en lui et il vous rendra plus d'un service à l'occasion. » Tout en parlant, le supérieur désigna d'un geste un jeune chinois vêtu d'une longue robe brune et coiffé d'un large chapeau de bambou tressé. Monsieur Dubreuil le regarda et il ne put s'empêcher d'éprouver à sa vue une singulière émotion. Il lui semblait avoir déjà rencontré cette physionomie quelque part. Il regarda longtemps Sakun, qui lui parut différencié en rien de ses compagnons. Monsieur Dubreuil pensa qu'il s'était trompé. Il fit son prix avec les porteurs, remercia une dernière fois le supérieur du monastère, et toute la troupe, guidée par le silencieux Sakun, se dirigea vers le palais des compositions littéraires. Le lendemain, de très bonne heure, les membres de l'expédition de Monsieur Dubreuil, qui, joints à l'escorte de Timothée Framme, formaient une imposante caravane, défilèrent à travers les rues encore endormies et sortirent par la porte de l'ouest. La caravane s'engagea dans un bois de bambous, précédée d'une avant-garde de tirailleurs annamites, conduits par le sergent Paulet. Timothée Framme, M. Dubreuil, Germaine et les deux cousins venaient ensuite, suivis de Janic et d'Onésime Rougeau, qui devisaient joyeusement. Les hommes étaient à cheval, les deux femmes avaient pris place dans leur palanquin. Quant à le géomurdoc, il marchait seul à l'écart. Il avait essayé de causer avec Onésime, mais celui-ci avait répondu d'une telle façon que le sournois écossais avait dû se retirer. Les porteurs venaient ensuite, le fardeau sur l'épaule, sifflant ou chantant pour s'entraîner. Enfin, Sakun formait l'arrière-garde à la tête de quelques tirailleurs annamites. À peine la caravane avait-elle franchi les portes de la ville qu'elle fut suivie par un palanquin hermétiquement fermé. Il était richement décoré et semblait appartenir à quelque haut personnage. Georges Formentier et son cousin, très intrigués, se retournaient à chaque instant sur leur selle. Monsieur Dubreuil remarqua leur manège. « Mais qu'avez-vous donc tous deux ? » dit-il. « Oh, rien, répondit Georges, mais depuis que nous avons quitté la ville, nous sommes suivis par un palanquin. J'ai vu Sakun s'en approcher tout à l'heure et causer d'une façon très animée avec une personne invisible. « Mais voyons ce que c'est !» interrompit Jean. Monsieur Dubreuil fit arrêter le convoi. Il se dirigeait déjà vers l'arrière-garde quand Sakun se présenta devant lui. « Eh bien, demanda l'ingénieur, quel est ce palanquin et qui voyage dedans ?» Sakun eut un mystérieux sourire. Monsieur Dubreuil, voyant qu'il ne répondait pas, craignit d'avoir été indiscret. Mais le rusé chinois avait deviné l'embarras de l'ingénieur. « Noble seigneur, fit-il, n'ayez aucune inquiétude. C'est une religieuse bouddhiste qui se rend en pèlerinage à Lhasa. J'espère que vous ne verrez aucun inconvénient à ce qu'elle suive la caravane. » Monsieur Dubreuil réfléchit un instant. « Ah, ne pourrais-je voir cette sainte personne ?»« Non, seigneur, interrompit Sakun. Elle a fait vœu de ne rencontrer à qui que ce soit avant d'être arrivée à Lhasa. « Bien, dit l'ingénieur, que l'on respecte ses volontés. Elle peut prendre place dans la caravane si cela lui plaît, mais de toute façon, nous la protégerons. » Sakun s'inclina devant l'ingénieur, puis se retira. L'ingénieur donna le signal du départ et la caravane se remit en marche. Chacun commentait l'incident à sa façon. Seul Georges Fromentier demeurait silencieux. La vue de ce palanquin lui avait causé une émotion qu'il ne pouvait s'expliquer. Il cheminait, perdu dans ses pensées, jetant de temps à autre à la dérobée un regard sur la mystérieuse litière. Tout à coup, il vit une main blanche se glisser en dehors des rideaux dont elle arrangea les plis pendant quelques instants. Puis elle disparut. À la vue de cette main, Georges avait tressailli. Il observa longtemps encore le palanquin. Mais la mystérieuse voyageuse ne donna plus signe de vie. Georges regagna ses amis en tête de la caravane, sans voir Sakun qui le regardait s'éloigner en souriant énigmatiquement. Chapitre 8. Chaque matin, les porteurs se réveillaient dès l'aurore, repliaient les tentes au milieu des éclats de rire et des cris, et le camp présentait l'aspect de la plus joyeuse animation. Après une légère collation, la caravane reprenait sa route. Déjà, l'on se ressentait du voisinage des montagnes. La température était moins élevée. La puissante végétation des régions tropicales faisait place peu à peu aux essences arborescentes des zones tempérées. En même temps que le terrain devenait plus sec, les rizières et les marécages disparaissaient. Seul le riz dur, qui pousse en pleine terre, rappelait aux voyageurs la flore de la vallée basse du Sikiang. Les forêts de teck s'étendaient à perte de vue. Les cèdres, les pins, dressaient dans les airs à une hauteur vertigineuse, leurs cimes au feuillage toujours vert. D'ailleurs, le pays était calme, aucune mauvaise rencontre ne semblait à redouter. Les pirates demeuraient invisibles. « Eh bien, mon cher père, êtes-vous content de notre nouvelle manière de voyager ?» disait Dir Germaine. « Vos craintes sont-elles évanouies ?»« J'avoue, répondit M. Dubreuil, que les conseils du mandarin étaient bons à suivre. Cette tranquillité apparente du pays ne me semble pas de bon augure, » ajouta Timothée Fram. Vous savez ce que vaut la parole d'un Chinois. Oh, vous voyez toujours le mauvais côté des choses, monsieur Fram, interrompit Jean. Ici, nous sommes loin de la Chine du centre et nous n'avons plus rien à craindre. Timothée Fram se mit à rire. Ah, vous connaissez bien mal le Chinois des frontières, monsieur Cascaret. Songez que nous nous rendons dans le Tibet, le grand centre du bouddhisme. Ce pays, jusqu'à ce jour, a été fermé aux Européens. Et croyez-vous que les mandarins nous en laisseront franchir impunément les limites? Le grand lama de Lhasa est un des souverains les plus puissants de l'Asie. S'il lui plaît de nous faire rebousser chemin, il n'aura qu'un mot à dire. Et je vous assure qu'aucun de nous ne pourra enfreindre son ordre. Bah, mais nous verrons bien quand nous y serons, répondit Germaine avec insouciance. En tout cas, si le fait se produisait, je connais quelqu'un qui serait bien contrarié. Et qui donc, s'il vous plaît? Mais vous-même, monsieur Timothée Fram. Je suis sujet anglais, répondit le porteur. Je veux aller à Lhasa et j'irai, quand bien même je devrais employer la force et subir plus tard 1000 tortures. Germaine battit des mains, Jean se tourna vers elle avec une moue de mécontentement. « Eh bien, dit-il en s'adressant à l'anglo-saxon, si vous trouvez un moyen de passer, nous en profiterons, à moins que ce ne soit moi qui vous le fournisse, ce moyen. » Timothée Fram allait répliquer, mais d'un geste, Germaine l'en empêcha. La jeune fille sentait que les choses allaient prendre mauvaise tournure. Et elle voulait éviter toute altercation entre les deux hommes. « Laissons cela, » dit-elle en souriant. Puis, se tournant vers Jean, « Ne vous emportez pas si facilement. L'on dirait vraiment que vous êtes jaloux de M. Fram, que vous seriez heureux de voir son voyage d'exploration arrêté dès le début. » Jean ne répondit rien. Il tourna bride et rejoignit Onésime Rougeau, avec qui il eut un long entretien. La caravane poursuivait sa route. Germaine et Janic babillaient, Georges rêvait silencieusement, et M. Dubreuil et Timothée Fram s'entretenaient des derniers événements. L'on arriva bientôt en vue d'une ville. À ce moment, Timothée Fram se sépara de l'ingénieur et donna quelques ordres à son domestique. « Eh bien, Milord, savez-vous quelque chose de nouveau au sujet du palanquin ?»« Bon, non, ne nous occupons pas de cela. Nous saurons la vérité quand nous voudrons. » La ville dans laquelle M. Dubreuil et ses compagnons pénétrèrent était une place forte. Elle était défendue par de hautes murailles flanquées de tours carrées et renfermait une nombreuse garnison de réguliers chinois. La caravane dut s'arrêter à la porte et parlementer longtemps avec un officier afin de pouvoir entrer. Enfin, M. Dubreuil et Timothée Fram purent se rendre chez le mandarin préfet et présenter leur lettre de recommandation. Le mandarin les examina minutieusement, et quand il se fut rendu compte de leur parfaite authenticité, il se mit avec assez d'obligeance à la disposition des deux hommes. Il leur assigna comme logement un palais d'hiver qui se trouvait à quelque distance de sa demeure. Confortablement installés, les voyageurs passèrent une excellente nuit. Timothée Fram crut le moment venu de mettre certains de ses projets à exécution. Il quitta donc le palais sans éveiller l'attention et alla secrètement rendre visite au mandarin préfet. Les deux hommes eurent ensemble un long et mystérieux entretien. Et comme ils allaient se retirer, le reporter ajouta « Pour vous prouver la véracité de ce que j'avance, voici d'ailleurs une lettre de Tian Xinfu, le négociant de Canton. » Le mandarin lut la lettre, hocha plusieurs fois la tête et dit en souriant « Oui, cela va bien, je le comprends, il sera fait comme vous le désirez. Vous pouvez partir sans crainte, je me charge du reste. » Après une dernière poignée de main, Timothée Fram se retira. Le lendemain, à la première heure, M. Dubreuil se rendit à son tour chez le gouverneur pour prendre congé de lui pendant que la caravane se reformait. « Ah, noble seigneur, dit le mandarin, vous ne pouvez pas partir. »« Comment cela et pourquoi? N'ai-je pas des passeports en règle ?»« Si, noble seigneur, mais j'ai des ordres formels. Mon gouvernement s'oppose à ce que vous alliez plus loin. » Seul tout habillé à la barbe rouge peut continuer son voyage. » M. Dubreuil n'en croyait pas ses oreilles. Il essaya d'obtenir d'autres explications. Il se heurta à un entêtement absolu. Il offrit de l'argent, une somme considérable même. À sa grande stupéfaction, le mandarin refusa. De guerre lasse, il abandonna ce fonctionnaire trop scrupuleux, rejoignit ses amis qui n'attendaient plus que lui pour partir. Rapidement, il les mit au courant de la situation. « Cela ne me paraît pas naturel, » grommela Jean. « Doit y avoir du Timothée là-dessous. Ce diable roule me dit rien qui vaille. »« Encore vos soupçons, » dit Germaine. « Eh, mademoiselle, » répliqua violemment Jean, « je maintiens que cet Anglais est la cause de tout. » On dirait que dès hier, il savait que nous serions arrêtés. Et puis cette prétendue défense du gouvernement chinois qui arrive si à propos, cela ne me semble pas clair, enfin, c'est bon. Timothée Fram arrivait à ce moment. Il dissimula un sourire de satisfaction en voyant la mine désolée de l'ingénieur et de ses amis. « Que se passe-t-il donc ? » interrogea-t-il. « Bien, il y a, » reprit M. Dubreuil, que le mandarin préfet ne veut pas nous laisser partir. Et pourquoi cela? Il a, paraît-il, reçu des ordres formels, répliqua Germaine. Des ordres du gouvernement chinois, ajouta-t-elle, en regardant Timothée Fram bien en face. L'anglo-saxon supporta sans broncher le regard de la jeune fille. Quel fâcheux contretemps, mademoiselle, ajouta-t-il hypocritement. Nous voilà arrêtés, comme j'en avais le pressentiment hier. M. Cascaret est bon prophète. Voilà mon expédition compromise dès le début. Oh non, 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 nullement, dit Georges. L'ordre ne concerne que nous. Vous avez toute liberté de partir quand il vous plaira. Oh, je ne partirai qu'avec vous, répliqua Timothée Schwab avec chaleur. Je vais aller intercéder en votre faveur auprès du mandarin, avec quelque taille. Il n'acceptera rien, dit à son tour M. Dubreuil. Il m'a déjà refusé. C'est incroyable. Enfin, je vais toujours essayer. Et sans écouter ses compagnons, il se dirigea en riant, en sous-cape, vers le palais du mandarin préfet. Pendant qu'avait lieu cette conversation, Cascaret conférait avec Onésime et le fidèle Sakun. D'après les conseils de ce dernier, Cascaret ordonna aux porteurs de reprendre leur fardeau. Puis, quand chacun fut prêt, il revint chercher ses amis. « Allons, dit-il gaiement, nous en route, nous partons. »« Comment nous partons ?» interrompit Germaine. « Et où allons-nous, s'il vous plaît ?»« Mais au Tibet, mademoiselle. » « Et le mandarin préfet, que dira-t-il »« Le mandarin préfet ? Oh, bien, si nous le rencontrons, nous l'inviterons à souper. »« Alors, dépêchons. Le temps presse. Laissez-moi faire. » M. Dubreuil et Georges Fromentier, gagnés par l'entrain du jeune homme, résolurent de suivre son avis et d'essayer de sortir de la ville par surprise. Tous le suivirent et se dirigèrent vers la porte ouest de la ville. Là, comme il fallait s'y attendre, on s'opposa à leur sortie. Les deux chefs de poste qui parlementaient avec Sakun, l'un était un vieux mandarin bouffi, pansu, alcoolique, et dont la tête assez semblable à une grosse citrouille ornée de moustaches oscillait continuellement de droite à gauche, comme si son cou était trop faible pour la porter. L'autre était aussi maigre que son compagnon était gras. C'était un lieutenant de réguliers chinois. Il fumait continuellement de l'opium, et l'abus de cette substance pernicieuse l'avait tellement amaigri et racorni qu'il semblait prêt à se casser au moindre coup de vent comme un roseau desséché. Tous deux poussaient de petits gloussements en réponse aux explications de Sakun. Il refusait nettement de livrer passage aux Français. « Bon, dit Cascaret, je vais leur parler. » Et suivi d'Onésime et de Sakun, il pénétra dans le poste de garde. Germaine les accompagna curieusement. « Voyons, laissez-nous sortir, » dit-il au mandarin pansu. « Je ne peux pas, » répondit-il avec une inquiétante oscillation de sa grosse tête. « Vous êtes français, vous ne sortirez pas. » Et il avala une énorme rasade d'eau de viderie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» interrogea Cascaret.
« C'est du vin de feu, voulez-vous en goûter ?»«
Volontiers. » Et Cascaret avala sans sourciller un grand verre de l'abominable boisson. « Pas mauvais, » fit-il avec une grimace, « mais j'en ai du meilleur. » Il fit un signe à Onésime. Celui-ci tira d'une cantine qu'il avait apportée une bouteille de vieille eau-de-vie de France. « Goûtez-moi ça, » dit-il en remplissant le verre du mandarin. Celui-ci ne se fit pas prier. La liqueur lui plut tellement qu'il s'empara de la bouteille et se mit en devoir de la vider consciencieusement. « Bon, bon !» faisait-il après chaque lampée. Germaine s'amusait. Elle comprenait la tactique de Jean. Elle encourageait le vieux mandarin à boire, et celui-ci ne se faisait pas prier. Et sa tête ballottait avec tant de violence que Germaine crut d'un moment qu'elle allait se détacher et rouler à terre comme un potiron arrivé à maturité. Et ce fut ce qui arriva bientôt. Mais le corps du mandarin la suivit, et incontinent, le noble personnage se mit à ronfler. « Aidin, dit Cascaret, à l'autre maintenant. » Le lieutenant chinois avait assisté à cette scène sans mot dire, fumant sa pipe. De temps à autre, il jetait des regards de convoitise sur le flacon que vidait son supérieur, car si le maigre personnage avait fait de l'opium son péché mignon, il ne daignait pas, à l'occasion, un bon verre d'alcool. Cascaret lui versa à boire.
« Eh bien, dit Germaine, vous allez nous ouvrir les portes. »«
Mais cela m'est impossible. »« Mais pourquoi cela ? Dit Jean.
« Mais j'ai bien hâte de laisser passer une troupe d'Occidentaux. »«
Eh bien, mais des Anglais. »« Alors laissez-nous passer. »
« Non, vous êtes des Français. »«
Oh, voilà bien une autre. Allez, ouvrez-nous les portes. »«
Mais non, je ne puis pas. On me donnerait la bastonnade. »«
Oui, c'est une affaire entendue. Mais enfin, êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper ?»« Pourquoi vous croyez-vous Français ?»«
Le mandarin l'a dit, »
répondit le maigre lieutenant.
« Mais qui vous fait penser qu'il ne s'est pas trompé ?» répliqua Germaine. « Comme vous vous trompez vous-même en ce moment, » ajouta-t-elle, en glissant au lieutenant une poignée de tael.
« Bon, oui, certainement, je fais erreur, » dit le Chinois en empochant l'argent.
« Certainement, oui, certainement. Oh, des Français n'oseraient pas s'aventurer dans ces contrées sans escorte. Et vous avez une forte escorte, mais certainement, oh oui, certainement, vous êtes Anglais, oh oui !»
Et il tendait à Cascaret sa main décharnée. Celui-ci avait compris. Une nouvelle poignée de tael acheva de convaincre le vieil officier.
« Oui, oui, tout à fait anglais !»
Et enjambant sans façon le corps du mandarin qui ronflait toujours, il alla lui-même ouvrir les portes de la ville. À ce moment, Sakun se pencha à l'oreille de l'officier et lui dit quelques mots en désignant le palanquin mystérieux. L'officier se mit à trembler et hâta l'ouverture des portes.
« Allons vite, vite, partons !»
La caravane sortit. Ce fut Germaine qui raconta ce qui s'était passé dans le poste.
« Oh, je donnerais volontiers une ligature de sapec pour voir la tête que fera mon Timothée quand il nous verra envoler, » dit Jean.
Et, de fait, Timothée Framme n'était pas content. Monsieur Dubreuil et sa troupe n'étaient pas partis depuis une demi-heure que l'anglo-saxon se présentait à son tour à la porte de l'ouest. L'officier lui refusa le passage.
« Vous êtes français !» s'écria-t-il en brandissant sa pipe à opium. « Vous ne sortirez pas !»«
Mais imbécile !» dit violemment Timothée. « C'est nous qui sommes les Anglais !»«
Non, français !»
Il ne put rien tirer de plus de l'officier. Furieux, il retourna au palais du gouverneur, qui se mit à pousser de hauts cris. Il envoya chercher le mandarin et son lieutenant, fit incarcérer le premier et donner la bastonnade à l'autre, puis il accompagna Timothée Framme et son escorte jusqu'aux portes de la ville et lui souhaita un bon voyage, après s'être excusé de son mieux de ce qui venait de se passer. Timothée Framme et Joe Murdoch galopaient furieusement. Enfin, la caravane de M. Dubreuil fut en vue. En approchant, Timothée Framme entendait les éclats de rire des Français, et il se doutait bien que l'on s'amusait à ses dépens.
« Mais que signifie tout cela ? » dit-il en se levant à peine. « Vous vous moquez de moi. Je me dérange ce matin pour vous rendre service. » Et vous profitez de mon absence pour prendre la fuite et me mettre en mauvaise posture vis-à-vis du gouvernement dans la ville. « Mais que voulez-vous ? » dit tranquillement Germaine. « Vous êtes resté si longtemps loin de nous que nous vous avons cru arrêter aussi. Et comme votre voyage ne doit souffrir aucun retard, nous avons avisé au plus sûr moyen de le poursuivre.
« Du reste, » ajouta Jean en regardant malicieusement l'anglo-saxon, « nous nous doutions bien que, grâce à vos puissantes protections, vous ne seriez pas longtemps retenu. On n'arrête pas ainsi les sujets de Sa Majesté. » Monsieur Dubreuil intervint. « Croyez, monsieur, que nous sommes fort contrariés de ce qui vous est arrivé. Oh, nous avons eu tort, sans doute, d'agir ainsi, mais, comme ma fille vous le disait, nous sommes pressés. »
« C'est bien, n'en parlons plus, » répondit Framme en tendant la main à l'ingénieur. Il y a un simple malentendu et j'ai eu tort d'en prendre ombrage. Ne m'en veuillez pas, je vous prie, de mon mouvement de mauvaise humeur de tout à l'heure. Mais l'on déjeuna. Malgré tous les efforts de M. Dubreuil et de Germaine pour amener la gaieté, Timothée Fram demeurait sombre et boudeur. La caravane se remit en route, mais chacun faisait bande à part. Joe Murdoch racontait à son maître la réception peu cordiale que lui avaient faite Onésime et Janik. Si M. Dubreuil et ses amis avaient été courtois envers Timothée, leur domestique avait reçu le sournois écossais avec de tels colibets qu'il avait dû prendre son seul repas à l'écart pour ne pas être en butte aux railleries des deux Français.